60, c'est le niveau de Roland Barthes. Il y a un peu moins, un peu plus haut, et un peu plus à la périphérie, c'est le niveau de Roland Barthes. Un peu moins au niveau supérieur, qui est le Roland Mondrian, un peu moins au niveau encore supérieur, qui est le Roland à Tilloud, et encore moins, mais quand même, au niveau encore supérieur, qui est un peu supérieur, le Roland Edoun Pachou, qui est le Roland de Hac. Et c'est pourquoi d'ailleurs les mots vont prendre deux noms différents. Lorsque les mots sont désignés dans leur reconstruction, dans leur refiguration littéralement, alors ils sont appelés par Tsoufim. Alors le Kavayosher a pris pas sur les Egoulim et apparaît le visage. C'est pourquoi par Tsouf signifie visage. C'est donc avant là, le Tikkun, que par exemple Chorma s'appelle Chorma, ce n'est qu'après le Tikkun que Chorma s'appellera Abba. Vous ne vous trouverez pas sur le registre de vocabulaire. Et je pense que c'est suffisamment clair. Mais indépendamment de cela, indépendamment du fait que le Tzimtzum se fait vraiment Tzimtzum au centre de moins en moins, mais il est Tzimtzum quand même, ça veut dire évidemment de l'absolu Ensof, malgré tout, ce vide qui est entièrement vide n'est quand même pas entièrement vide. Et je vous rappelle comment je l'ai expliqué, en simplifiant peut-être encore hier soir, c'est que la lumière, en se retirant, laisse ce que les kabbalistes appellent en hébreu, qui est de l'araméen d'ailleurs, Rishibou, Rochem en hébreu, une trace. Et là, encore une fois, ce n'est pas la logique non là. Bien que le vide soit absolu, il reste quoi que ce soit de cette lumière qui s'est retirée, et à des niveaux différents. Et la lumière se retirant fait apparaître ces niveaux différents d'éloignement et de proximité. À chaque niveau d'éloignement et de proximité, il y a un Rishibou qui est resté. Littéralement. Et lorsque la lumière des Egoulim, qui est évidée du côté personnel de l'être, vous rappelez, Itroknout, revient et rencontre ces régimes, si la dîme sphère. Alors, première chose, une sphère, première chose, c'est qu'il y a une infinité de niveaux, infini, et ça. Mais c'est récapitulé dans le vocabulaire kabbaliste au nombre de 10. C'est pourquoi on parle des 10 pions. Et ces 10 sphérotes, c'est le récapitulé symbolique, si j'ose dire, d'un infini de niveaux. Ces 10 sphérotes elles-mêmes sont 5, comme nous l'avons vu, d'où les 5 partoufibles, les 5 mondes, qui sont eux-mêmes, chacun d'entre eux, divisés à l'infini en 5, et on retrouve cette infinité. Ce sont les infinités d'efforts qu'il faut pour, à partir du néant, à une, redevenir quelqu'un, ami. Vous remarquez qu'en hébreu, c'est les mêmes lettres. Du à une, devenir ami. Du ma devenir mi, par exemple. Et c'est l'infini des instants de la vie de chacun, qui est limité mais infini. Et à chaque, c'est pourquoi le Talmud insistera pour dire la perte de chaque instant s'appelle bitouzman, on a annulé l'être du temps, et ça ne se passe pas jamais. Bon, j'ai dit une chose qui est difficile, c'est vrai que ça ne se passe pas jamais, mais on peut faire un petit coup. Et ça complique la restauration à faire. Mais en hébreu, perdre le temps, eh bien, c'est pas la même chose qu'en français tuer le temps. Okay. Vous voyez, le français est très franc. Okay. Il dit tuer le temps. Et c'est l'assassinat le plus blasphématoire pour la pensée kabbaliste. Perdre du temps. Et c'est pourquoi la vie moderne est très anti-kabbaliste. Et effectivement, le temps perdu ne se rattrape jamais, mais. Malgré tout, le tikkun peut se faire simplement, rappelez-vous aussi l'analyse d'hier soir, le tikkun à faire est compliqué par l'assassinat du temps. Puisque chaque instant de temps est donné pour un tikkun de madriga supérieure. Et en fait, en principe, il suffirait d'une vie pour remonter cet infini. Je dis bien en principe. Là, je vais ouvrir une parenthèse sur une notion de laquelle je ne vais pas parler cette fois-ci, en tout cas. Mais comme nous ne sommes que ce que nous sommes, nous arrivons par une vie à faire cette chose simple qui est à remonter l'infini. Alors plusieurs mots nous sont donnés, c'est ce qu'on appelle le Gilgul. Et comme vous le savez, on ne peut pas traduire l'incarnation. Après, ne faisons pas métampsychose quand le Gilgul se passe chez l'animal, à travers l'animal. mais ça ressemble, disons. Et comme vous savez, dans la tradition juive officielle, la plus orthodoxe, il n'est pas imposé de croire au Guilgoul. Et on peut être un juif pratiquant sans croire au Guilgoul. Et il y a un état de choses, on a la limite sans croire. Mais il est bien évident que, disons de principe, ça fait partie de l'atmosphère de la loi juive, on impose comme article de foi quelque chose que la pensée du croyant peut, en toute intelligibilité, concevoir. Ça reste de la foi. Mais la connaissance est indispensable, vous connaissez l'expression talmudique, le mot amaret chassid. Et le amaret ne peut être chassid. Ce qui se traduirait en langage contemporain, et l'ignorant ne peut être vertueux. J'ai une fois demandé à un de mes maîtres, qu'est-ce que c'est un ignorant? Il m'a dit, celui qui connaît tout le Talmud et pas plus. Et c'est-à-dire sans aucun chidouche. Et il y a aussi d'autres définitions de qu'est-ce que c'est ignorant, mais ne fonde pas amarré, c'est ignorant de la Torah. Alors que bourre, ça veut dire, j'ai pas dit bourre, mais bourre, ça veut dire ignorant dans le sens français, inculte. Le fond de départ. On peut être très cultivé et amarré de la Torah. Avec l'histoire des mots dans les langues juives, ce mot a pris un sens un peu trop vague ou trop précis, en tout cas ambigu et négatif, mais le mot de amarré, merci. Le mot de amarré est très positif dans le langage biblique. Faites attention, c'est le peuple qui habite le pays, littéralement. Amarré. Et je rappelle que dans nos pays, il y a une quantité de Torah au kilomètre carré qui vient nulle part ailleurs. Je vais faire la parenthèse. C'est-à-dire que nous sommes de moins en moins à Maharet, il suffit déjà de parler l'hébreu. C'est étonnant. À côté des temps que nous avons pu traverser. Voilà, en tout cas, le halal est entièrement halal, et cependant, pas entièrement oui, à tous les niveaux, il y a ce régime. Et c'est lorsque la lumière des Evoulim, la lumière qui est redonnée aux sphères, qui est la lumière du moi, qui est la lumière de l'être impersonnel du monde, et non pas de l'être personnel qui est le cavalier du monde. C'est clair. Okay? Et rentrer de nouveau dans le Chaval, et rencontrer le Rishimu, en collaborant avec lui, en l'enfouissant en elle, en l'occultant, si j'ose dire, constitue le Keli des sphères, dans une collaboration avec le néant du Chalam. Et donc il y a un Rishimou dont l'origine est la lumière totale qui est enfouie dans la nature. Voilà, c'est bien. C'est cela qui permet au Rav d'être sûr qu'en fin de compte le Kavayosher triomphe. Parce qu'il sera aidé du dedans même des forces de l'impersonnel de la nature par le Rishimou qui est de son être et qui fait tout ce qu'il peut pour retrouver son être. J'espère avoir été suffisamment clair, et ça s'appelle en hébreu la Ahava. Il y a un appel de Ahava d'unité, rappelez Ahava, Echad 13, entre le Kavayosher qui travaille traversant les Egoulim et le Rishimu qui est de son même être enfoui occulté dans les Kelim et Egoulim eux-mêmes. C'est clair en français? Et donc, on ne peut qu'être sûr qu'en fin de compte, puisque ça dure, qu'en fin de compte, le Hortémi, qui est intérieur au Keli, et qui fait tout ce qu'il peut pour retrouver son Hortitsoni, qui est le Kavayosher extérieur au Keli, finiront par se réunir. Pourquoi je dis « puisque ça dure » C'est précisément la différence avec l'atmosphère du pessimisme théoricien et philosophique. Si le mal était originel, si le chaos était originel, et non pas comme nous l'avons appris, second, nécessité par l'acte de création, et donc provisoire. Alors, puisque ça dure, il y a un espoir. Parce que si le bien cosmique était plus fort que le mal cosmique, il le serait déjà. S'il n'est pas déjà, c'est qu'il ne sera jamais, puisque ça dure. Tandis que dans la conscience de notre texte, c'est exactement la même. C'est parce que ça dure que nous sommes sûrs que cela finira par triompher. Et donc, alors que dans la culture générale, c'est le temps qui dure, qui dissout l'espérance, Dans notre texte, c'est data, précisément, le temps qui dure qui fonde l'espérance. J'ai souvent dit que l'identité juive, du point de vue historique, était faite à la fois d'une impatience infinie, vite, vite, l'année prochaine, comme disent les juifs. Et une réveille à Menou, Agalat et Montarir, Ayom et Mekorotishmaou, tout de suite, Archav. L'impatience infinie. Et en même temps, d'une patience infinie, elle aussi. On a traversé l'histoire. Il fallait le faire. Et pour ça, il fallait de la patience. Je pense que c'est. Alors, cette notion de le temps qui dure nous sépare des philosophes. Le temps qui dure vieillit les philosophes et nous rajeunit. C'est pas si on pourrait le dire autrement, d'ailleurs. Bien, voilà l'essentiel de ce que je voulais dire pour ce premier exposé. Est-ce qu'il est déjà ?
Midi moins 10.
Alors, nous avons 5 minutes pour une question. Vous êtes trop bavard, vous aurez la parole après. Et dans 5 minutes, je reviens dans une demi-heure. Oui ?
Vous avez parlé ?
Oui.
Alors, vous. Oui, le problème du mal, vous l'avez apporté un certain nombre de l'année soir. Et si vous voulez bien, si je respecte ce que vous avez dit, c'est que ça crée le créateur, s'il avait créé la même chose que lui-même, c'est-à-dire sans le mal, il n'aurait rien créé.
Exactement.
C'est-à-dire donc que la création comporte le mal. Et il y a quelqu'un qui avait dit, à l'origine, tout à fait, si j'ai bien compris, il n'y avait pas le mal. Le mal est arrivé par le choix, par la liberté de choix.
Qui a dit cela ?
Quelqu'un dans la salle de lundi soir.
Là, c'est possible.
Et la question que je pose, c'est la suivante, c'est que si le mal disparaît, il n'y a plus de différence entre le créateur et le créé.
Très bien.
Attendez, pardon. Ah. Mais et puis, deuxième chose,
alors, une chose.
C'est le monde à venir. S'il y a continuité avec le monde actuel, il est changé par rapport au monde actuel, donc sans le mal. Et à ce moment-là, est-ce qu'il y a liberté de choix ?
Bien. Alors, ça fait quand même deux questions, je vous réponds brièvement. Ça ne sera pas la même chose, comme si le monde n'avait pas été créé, parce qu'entre-temps, il y a eu la restauration des mondes. Vous étiez là hier soir ? Non. Et deuxièmement, il n'y aura plus de liberté de choix, parce qu'on n'en aura plus besoin. Et encore une fois, il faut inverser la fonction des concepts. Entre-temps, l'être créé s'étant acquis, a acquis sa dimension d'éternité et de divinité, sans qu'il y ait confusion de substance avec le Ensof, avec le Créateur, il devient lui-même créateur d'autre monde, mais pas au niveau. Le verset dit Kadashti betochechem, et le commentaire rapporté par Rashi dit, et ça veut dire littéralement, je me sanctifierai du dedans de vous, à travers vous, parmi vous. N'oubliez pas la fin du verset, dit le commentaire, qui a mis Kadosh. Je ne sais pas si j'ai cité exactement le verset, mais je peux le chercher. Car je suis Kadosh. Et ça veut dire finalement, plus vous êtes Kadosh, plus je serai, parce que dans tous les cas, je suis plus haut que vous. Est-ce que c'est clair ? Okay. Et c'est dans ce sens qu'il faut comprendre, vous me sanctifierez, et non pas du tout dans la confusion des substances. Quelques mots sur la deuxième question reliée à la première, c'est que la liberté de choix dont nous parlons en la nommant libre arbitre, le tzaddik, le juste, n'en veut plus, parce que c'est elle qui lui permet de fauter. Et nous parlerons d'une autre liberté qui s'appelle Chofesh, qui est au-delà, au-dessus, et que j'avais dit dans soit un matin, soit un soir, que probablement, qui est la liberté de création, et non pas la liberté de choix, que probablement dans notre monde, seuls les artistes et la mida de Hod devinent, qui est au-delà de la liberté de choix. Bien, je reviens immédiatement après l'interruption, nous reprendrons les questions. La première, c'était sur le livre arbitre.
C'était le fait que la création pouvez être créé de façon différente du Créateur, donc comporter le mal. Et puis c'était posé face à l'espérance, je dirais, le changement.
Et non, répétez la question comme vous l'avez dit.
C'est difficile de retrouver les mêmes termes, mais.
Parce que c'est déjà une autre question.
Oui. C'est le Créateur ne peut créer qu'une chose différente de lui-même.
Voilà.
Autrement, il n'y aurait pas deux identités. Et dès l'instant où le mal est créé, le changement, c'est-à-dire la disparition du mal, n'entraîne-t-il pas l'unité à nouveau et non pas deux? Et la deuxième question, c'était.
Non, la première seulement. Très bien, vous avez donc entendu la question. Et je crois qu'on pourrait la poser de la manière suivante. Est-ce que y a-t-il un acquis dans cette descente de remontée, ou bien y a-t-il simplement qu'un mécanisme infini qui se répète, qui en fait ne sert à rien puisqu'il recommence, qui peut être lié un peu à la notion du temps cyclique d'ailleurs, et qui entraîne cette désespérance dont vous parlez, qui serait aggravée par le fait précisément que ça recommence infiniment. Et c'est aussi rattaché, je crois, dans l'histoire du vocabulaire de religion et de la gloire, en particulier à la notion de théologie, qui joue à construire, reconstruire des jeux de construction qui s'appellent le monde parce qu'ils sont gris et qu'il faut bien passer le temps de l'infini, qui est évidemment étranger à la tradition de la vie. En fait, peut-être j'introduirai un précision de vocabulaire que le succès que nous avons étudié dans d'autres séminaires. C'est la distinction entre matana et kinyan, c'est-à-dire le don donné et le fait que soit acquis ce don qui a été donné. Il y a une différence absolue. Vous voyez, dans le premier geste, créer et donner le monde à l'histoire, ça commence par une matana pure et simple. C'est un don donné. Créer, ça veut dire donner, donner gratuitement. Et nous avons appris d'autre part que la condition qui s'attache à notre existence en tant que créature, c'est ce problème du mal. Et ce n'est pas extérieur ou antérieur, mais intérieur même au fait de créer, comme dit le verset d'Isaïe, qu'on vous a cité souvent, c'est 45:7 dans Isaïe, où Boré Ra, le créateur créant, crée l'appétit de recevoir l'être qui s'appelle le mal en hébreu. Cela, nous l'avons étudié un des soirs, probablement un des soirs à propos du problème du mal. Je pense qu'avec les catégories du Rav Ashlag, c'est suffisamment éclairé. Kinyan, c'est le fait que cette matana, ce don, ait été acquis par le mérite de l'effort d'exister pour la créature. Je veux dire qu'indépendamment du fait qu'il y a deux voies, la Torah et les mitzvot, qui est la voie directe et difficile, c'est au bout que c'est facile, et puis l'existence pure et simple, alors ça c'est plein de isouri. Rappelez du verset, j'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Alors, la vie c'est très difficile, mais c'est la vie. Et puis la mort c'est facile, mais c'est la mort. Enfin, la mort c'est facile, après. Si la mort n'est que la mort, alors c'est facile. Mais si c'est le point de départ d'autre chose, c'est pas facile. Et ça c'est le guilou dont je parle, le point de départ d'autre chose. Il vaut mieux être venu pour la dernière fois. C'est évident. C'est fatigant. Et alors, en tout cas, il y a acquis, c'est le mot de Itrom que vous trouvez dans l'Ecclésiaste. Ma Itrom, la Adam, Bechol, Amalo, Hachéri, Amo, Yahamon, Yahawo, Tahatashé. Que y a-t-il un surcroît, un surplus, un Itrom dans toute la vie que nous passons. Et ce surplus, nous l'avons entendu dans le texte que nous avons lu ce matin, c'est lorsque le Rav dit que nous sommes appelés à devenir divins dans le sens de créature et non de créateur. Plus exactement, je corrige, puisque je suis en porte-à-faux avec l'intitulé du Rav, devenant créateur soi-même, donc divin. Mais restant par rapport au créateur primordial, lui, Dieu, que nous nommons dans la tradition juive toujours lui, eh bien, plus haut. Il reste cette différence. Je crois qu'il faut bien réfléchir à l'expression employée par le Rav lorsqu'il dit, je voudrais vous retrouver l'expression elle-même, mais à la chercher, c'est dans ce paradis-là. Vous vous rappelez de ce dont je parle? Oui. Vous vous souvenez du passage où le Libra devient bourré à son tour? C'est une ligne qui se cache à mes yeux. On a parlé de ça ou pas ce matin? Vous êtes sûr que non? Ah, c'est hier soir. Absolument, monsieur, tu as raison, c'est hier soir. Et donc, je vais vous le dire. Je vais vous lire ce texte. La main Barachira, pourquoi la brisure intervient? Et c'est là que vous avez votre réponse. Les filles Shaelakut nous tenaient des hymnes, les Fikocha, parce que la divinité donne ce qu'elle donne d'après sa force à elle. Vamekabel Mugbalon. Or, celui qui reçoit est limité. Inkel, Tiya Torah Gwelet. S'il en est ainsi, le bien, sous-entendu reçu, serait limité, puisque le recevant est limité. C'est pourquoi lui donne le bien sans mesure. Le Shinidato, selon sa mesure à lui, c'est-à-dire tout. Le Tihye et le Krit Biltigouli. Et c'est pourquoi le bon donné est divin sans limite. Bien que ne peut pas le recevant créé recevoir. Sinon lorsqu'il est brisé entièrement. Rabbe explique ici pourquoi l'être de créature est perpétuellement brisé. Vous vous souvenez de Antigurat Akelim, vous vous souvenez du verset de Psaume, que Dieu désire le nishbat, le cœur brisé, et tout ce que nous avons vu hier soir à ce propos. C'est parce que la matana est entière, puisque c'est Dieu qui la donne et qui donne tout. Mais celui qui reçoit ne reçoit que de façon limitée. Or, comme c'est tout qui lui est proposé, il se détruit. Mais c'est dans cette destruction même, reconstruite perpétuellement, qu'il atteint, en fin de compte, ce tout, on voit le Kézura lui-même, et il permet, il choukato, et il est reconstruit dans son exigence, son désir. Rappelez, à Ahava de tout à l'heure, la chose d'une koro abiltig mouli, de revenir à sa source infinie. De s'unifier dans l'être de divinité, non pas de se confondre dans la divinité, mais de s'unifier et de devenir divin, si c'est suffisamment clair. Ou basé, Yahasé Hanibra et Hatsvo, c'est par là que le créé se fait lui-même, de Madriga Tashlemut chez le Boré, et devient au niveau de perfection de créateur. Et se surhausse au-dessus, au-delà des limites du créé, d'un être créé. Ce qui signifie chose qui n'était pas possible sans l'influx, le flux, ravtou du nombre de biens, si j'ose dire, qui est plus haut que le niveau de la possibilité de sa propre réception. Et la dernière phrase, c'est Haya Tamin, Ragme Madrigas Nibra, qui toujours, constamment, n'était qu'au niveau créature, de l'Ove Mahalat Boreklal, et pas au niveau de créateur en aucun cas. Vous avez donc en grande partie la réponse à votre question, c'est qu'après cette descente remontée, bien acquis, c'est le fait que le Nibra se transforme en Boré pour d'autres mondes suivants. Et ça ne signifie pas du tout qu'il y ait confusion avec l'aide du Créateur primordial que nous appelons lui, et que le langage habituel a fini par appeler Dieu. Et il y a donc cet acquis du Zechut. Et vous savez, parenthèse que j'ai souvent faite, l'enlèvement du Zechut mérite est la clé de notre problème. Parce qu'en hébreu, il signifie épurement, transparence, Zechut. Le fait de se rendre transparent, c'est cela qu'on appelle en hébreu le mérite. Et, c'est-à-dire l'affiner les kelim jusqu'à ce qu'elles puissent, étant traversées par toutes les lumières à la fois, rappelez-vous le cours d'hier soir, elles puissent unifier ces lumières. Et alors, le nivra devient boré, le keli devient or, pour des mondes suivants. Chose, je répète, que certainement dans notre expérience de créature dans ce monde, il n'y a que ceux de la Sphira Hod, dont la racine de leur âme est la Sphira Hod, qui comprennent absolument, parce qu'ils ont une expérience, et que j'ai appelé par un terme très vague et très précis à la fois, les artistes. Il y a aussi des artistes du côté du mal, il y a aussi des artistes du côté du bien, de la sainteté. Il y a toujours les deux côtés. Vous ne savez pas que dans l'artiste, on peut mettre n'importe quoi. C'est évident, comme même dans le juste, on peut mettre n'importe quoi. Ça dépend de quelle tradition ils font partie, de quel côté ils sont, etc. C'est évident. Et voilà donc pour la première question. Le mal aura disparu une fois le Kéli n'ayant plus à être brisé, parce qu'il est suffisamment transparent, méritant, et ça ne signifie pas qu'il y aurait confusion dans la substance première, ce qui est au contraire l'obsession d'exigence des extrêmes orientaux. Pour le bonheur, c'est cela, en finir avec l'individualité et se perdre dans le grand tout. C'est-à-dire, l'extrême oriental est moral dans le sens qu'il donne et qui n'a rien à voir avec la morale publique. Pour pouvoir disparaître, alors que l'occidental est moral pour pouvoir se perpétuer. Il y a là une différence de sens de rotation de la Terre entre l'Orient et l'Occident. Et c'est pourquoi je vous reviens là-dessus, si vous êtes tenté par des analogies avec les textes d'Extrême-Orient, qui sont très beaux pour eux-mêmes, mais ça ne rend pas de longueur, méfiez-vous de la confusion du paganisme qui vient de s'installer. J'avais une fois parlé de ça dans notre séminaire, qu'il y a un critère qui est très important pour les distinguer, les textes de la Kabbale, donc du Talmud, donc de la Bible, avec les mafarchis, c'est-à-dire tout à la fois, et d'autre part les textes extrêmement orientaux, c'est le monde du goût. J'ai encore un texte occidental, le monde du goût, c'est que sa source est extrêmement orientale. C'est ce fait que la mystique extrême orientale, pour qu'elle puisse avoir énormément de respect comme fait culturel, se prend au sérieux et ne rit pas. Il n'y a pas de rire dans l'extrême orient. Le sourire du Bouddha, c'est le sourire du Bouddha, c'est pas un rire. Okay? Et une religion déterminée, je crois que c'est un critère très important. Et lorsqu'il arrive, le personnage occidental, les juifs eux-mêmes sont atteints par cela. C'est très grave. Le judaïsme qui se prend au sérieux, c'est déjà plus du judaïsme. Attendez, j'ai mal parlé. Le judaïsme, c'est sérieux. Mais les juifs qui se prennent au sérieux, et ça ne vient pas, c'est le comme un pape communistique. Je me souviens dans mon enfance, judéo-arabe, quand un rabbin jouait à l'archevêque, alors on l'appelait papaz. Vous rappelez de cela. Bien, tu voulais ajouter quelque chose sur ce point? Ah oui, vous d'abord, pardon.
Dans la peinture zen, il y a des peintures très humoristiques.
Oui, c'est vrai.
Il y a un certain rire, je crois, quand même, il y a une certaine gaieté. Enfin, j'ai lu, enfin, très partiellement, des passages, enfin, sur...
Vous avez absolument raison.
Il y a aussi des notions, je ne dis pas que ce soit aussi fort que bien sûr, que dans l'esprit biblique, mais il y a aussi quand même la notion de vertu, de morale dans le bouddhisme.
Écoutez, tout ceci mérite, vous avez raison, mais tout ceci mérite à être étudié, bien distingué. J'ai longuement parlé avec des bouddhistes zen, j'ai aussi parlé avec des shintoïstes. Je vais vous dire, de mon expérience personnelle, elle est très limitée de ce monde-là, mais elle existe quand même. Je suis très proche, familier, c'est ni proche ni familier, par le bouddhisme, qui me semble de tout cet éventail de spiritualité extrêmement orientale, le plus compatible, sinon proche, avec le judaïsme. Mais c'est une religion sans Dieu, je vous dis, et sans rire, malgré tout. Attendez, je n'ai pas fini. En particulier, que je me souviens dans un colloque d'un dignitaire zen, je ne sais plus comment il s'appelle, mais à la pointe, je ne crois pas soit lui, et qui dialoguait avec un ecclésiastique chrétien, orthodoxe d'ailleurs, qui se prenait face au sérieux. Et lequel ecclésiastique, je ne dis pas de nom, racontait une histoire pour mettre le zéniste, je ne sais pas comment on dit, le zéniste, en boîte. Il disait que la doctrine zen a monté de montagnes escarpées et essoufflé, arrivant au fait, trouve un jésuite installé sur le fait. Alors, le zéniste, ce que l'on dit, lui a répondu, il n'y a plus haut que le fait. Et quand le jésuite est enfin arrivé là-haut, il a trouvé un bouddhiste zen. Et évidemment, ça n'a pas de mot non plus, mais c'est un humour diabolique. Et j'en dirais, je pas plus. Il y a sept sortes de rires qui entourent la naissance d'Isaac. Un de ces rires-là, mais ce n'est pas celui ni d'Isaac, ni d'Abraham, ni de ça.